This is a vicious expose of a part of the young generation, that sick generation who must ravage and plunder for their kicks.
Bienvenue dans cet épisode 4 de la saison 5 de Culture Prohibée attaque Gérard May. Et oui, pendant toute la durée du 22e Festival international du film fantastique de Gérard May, l'émission hebdomadaire qui traite de l'actualité de la culture panette du ciboulot passe quotidienne. Chaque jour, notre équipe de chroniqueurs acharnés, au risque de se ruiner sa propre santé, continue de traquer les bons films en compétition et même hors compétition à ce Festival international du film fantastique de Gérard May. Et pour cette mission, l'équipe est composée en fait de deux personnes, c'est hyper limité. Et donc moi-même bien sûr, et surtout mon acolyte, mon fidèle Léo Zolast alias Léo Manien. Salut Léo.
Salut Jérôme.
A really cute guy, driving along some pretty road. It's never about going anywhere, really. It's having some sort of freedom, I guess.
Jay, you awake?
What is he doing?
You're not gonna believe me, and I need you to remember what I'm saying.
This thing, it's gonna follow you. Somebody gave it to me, and I passed it to you.
Wherever you are, it's somewhere, walking straight for you. All you can do is pass it along to someone else.
I'm scared. I need to find him.
What did he really do to you?
Apparently, he used a fake name to rent a house in the city.
This isn't real. I swear to you, this is just some game.
If it kills her, it gets me and goes straight down the line whoever started it.
What exactly is supposed to be following you?
I don't know.
Something happened. It's not what she thinks, okay?
You don't believe me. Mom?
No, it's me.
Everything's okay.
It could look like someone you know, or it could be a stranger in a crowd. Whatever helps it get close to you.
It Follows. It Follows était le premier film aujourd'hui projeté. Projeté donc en matinée, le film en compétition, l'un des derniers films en compétition, puisqu'on approche de la fin du festival. Et It Follows est un film avec une réputation flatteuse, et nous allons découvrir si elle est usurpée ou pas. Voilà. Mais avant de vous parler de It Follows, je voulais apporter quand même un petit complément à une des précédentes émissions de cette semaine par rapport au film de Jonas Govaerts, Cub, dont le titre en belge Whelp voulait dire donc louveteau. Et je vous avais dit que le titre choisi Cub me paraissait bizarre. Et ben non, en fait, j'avais tout faux. Ce titre Cub, en fait, ça veut dire en gros la même chose, mais c'est aussi un jeu de mots. Enfin, c'est un jeu de mots. Enfin, disons que ça désigne aussi les petits mammifères carnivores. Ceux qui ont vu le film me comprendront dans le sens, ce que moi je vois comme un jeu de mots. Voilà. Alors, maintenant, on revient sur It Follows. Je vous ai un peu dit que ce film était très attendu. Nous l'attendions, nous, avec impatience. C'est le deuxième film de David Robert Mitchell, qui est un jeune réalisateur, puisqu'il est né en 1974. Et nous sommes jeunes, nous, les gens nés en 1974. Il avait signé en 2010. The Myth of the American Sleepover. Je fais des efforts. Hein. En gros, c'était le mythe des pyjama parties américaines. Voilà. Qui avait été sélectionné à Deauville et qui avait eu le prix du jury. J'avoue, je n'ai pas vu ce film. Mais par contre, j'ai bien vu It Follows ce matin. It Follows, qui est un film qui démarre un peu comme un film de John Carpenter. C'est-à-dire qu'on est dans une sorte de banlieue américaine typique middle class comme on en voyait beaucoup, comme on pouvait en voir par exemple dans la série les années coup de cœur. C'est l'occasion de rendre hommage à Joe Cocker puisque sa reprise de With a Little Help from My Friends était le générique de cette série. Et comme on pouvait le voir, bien évidemment, vous l'avez deviné, dans Halloween de John Carpenter, qui mettait en scène cette middle class américaine. Bon, chez Carpenter, c'était la ville d'Haddonfield. Et là, bon, bah, la référence est assez évidente puisque la musique est carpenterienne à souhait, une de plus. Hein. Elle emprunte beaucoup au répertoire de John Carpenter. Et effectivement, c'est Détroit en fait. Hein. C'est les banlieues un peu plus chic de Détroit qui sont filmées. Mais elles sont filmées à la manière d'Haddonfield. On a vraiment l'impression de se retrouver dans cet environnement. Et le film démarre par une scène presque drôle en fait, qui a eu tendance d'ailleurs à arracher des sourires au public, puisque on y voit une jeune fille à forte poitrine, en talons aiguilles, courir comme une dingue, semblant être effrayée par quelque chose que nous on ne voit pas et qui la poursuit, hein, qui la suit, It Follows, donc hein, d'où le titre. Et donc elle finit par s'enfuir en voiture, partir comme ça sur une plage. Elle appelle son père pour lui dire qu'elle l'aime. Voilà, on sent bien que il va se passer un truc. Et puis il y a une ellipse et on la retrouve. Elle s'est bien fait tuer avec une jambe un peu à l'équerre mais à l'envers. Hein, voilà. Et puis le film démarre. Et voilà, ça c'était un petit préliminaire. Pour une fois, ce n'était pas un flash forward d'ailleurs. C'est à souligner, parce qu'il y a très souvent des flash-forwards pour débuter les films fantastiques. Et là, on se retrouve ensuite avec une bande de jeunes, dont un peu la leader, hein, est une certaine Jay, qui est une belle blonde, un peu typique de la belle blonde américaine parfaite, et qui a un air de famille avec Amber Heard, un léger air de famille dans le regard avec Amber Heard. D'ailleurs, c'est ce qui a fait dire certainement à beaucoup de critiques que le film était le nouveau All the Boys Love Mandy Lane, bien qu'effectivement, plastiquement aussi, il y a des similitudes entre les deux films, mais ce film raconte pas la même chose, par contre ça il faut être clair, et ce n'est pas un slasher, contrairement à ce que je vous ai dit dans une précédente émission. Ce n'est pas un slasher, c'est un vrai film fantastique. Voilà. Et cette Jay, c'est une post-ado, hein, c'est une étudiante quoi, qui vit dans une sorte comme ça de métamonde, voilà, un monde un peu à part, parce qu'il y a des parents, tout ça, mais on les voit jamais en fait, on ne voit que les jeunes entre eux. Et elle vit donc avec une petite bande de jeunes, dont Kerr Gilchrist. Je ne sais pas si je le dis bien, mais pour ceux qui connaissent United States of Tara, c'est celui qui interprète le gamin fan de Billie Holiday, homosexuel, dans cette série plutôt sympathique, ma foi. Et donc, elle vit avec sa frangine, elle vit avec une copine aussi. Ça se vanne, ça rigole un peu, mais c'est surtout des post-ados un peu tristes, un peu tristounés quand même, un peu on dirait mélancoliques. En cela, moi je trouve que le film d'ailleurs se rapproche un peu du travail de Sofia Coppola et plus particulièrement de Virgin Suicides. Et d'ailleurs c'est assez rigolo puisque Maika Monroe, dont c'est le premier vraiment rôle titre, enfin le rôle vraiment important, avait joué un petit rôle dans The Bling Ring, l'un des derniers, si ce n'est le dernier je crois, film de Sofia Coppola, film un peu sous-estimé d'ailleurs parce que c'est un film quand même assez intéressant sur ces jeunes qui allaient piquer des bijoux, des fringues, ou qui juste allaient se promener dans les villas de stars. Voilà, ça avait un peu défrayé la chronique. C'est un fait divers réel qui est arrivé il y a quelques temps. Et donc cette Jay, elle est un peu, c'est un peu la coqueluche de la bande, c'est la plus belle, la plus sexy, la plus magnétique comme ça, elle est un peu mystérieuse, elle aime beaucoup être dans l'eau, elle est très, très aquatique. Et puis, tout à coup, elle a rencard avec un garçon plutôt charmant, plutôt sympa, et puis il s'amuse à faire un petit jeu enfantin qui consiste à deviner de qui dans la foule on aimerait prendre la place. Voilà. Et à ce moment-là, lui, il lui fait signe qu'il aimerait prendre la place de telle personne, sauf que visiblement, il est la seule personne à voir cette autre personne. Voilà. Donc, petite flippette, ils sortent de la salle de cinéma. Bon, ils vont finir quand même par se revoir, malgré que ce garçon soit étrange, mais elle le trouve vraiment craquant. Puis il est plutôt gentil, il faut dire ce qui est. Et ils ont une relation sexuelle. Et là, tout à coup, tout à coup, comment dire, ça se passe bien, hein, voilà, ils font l'amour dans la voiture, et puis tout à coup, il l'endort avec du chloroforme, et par surprise, il la prend par mégarde, hein, et puis il l'emmène dans une sorte de sous-sol désaffecté. Bon, faut dire que c'est filmé à Détroit, et il y a des endroits de la ville complètement abandonnés. C'est la seule, première et seule ville, je crois, aux États-Unis à s'être déclarée en faillite. C'est aussi la ville natale, hein, du réalisateur David Robert Mitchell. C'est pour ça qu'il la connaît si bien et qu'il nous donne à voir des décors, voilà, un peu particuliers dans cette ville qu'on n'était pas amené souvent à voir au cinéma. Et puis, elle se réveille attachée à une chaise roulante, et ce garçon lui dit qu'il ne lui en veut pas, qu'il ne l'aime pas, mais qu'il lui a transmis quelque chose, et ce quelque chose fait que désormais elle va être suivie par différentes entités qui sont un peu des fantômes et qui vont essayer de la tuer. Il faut à chaque fois qu'elle leur échappe, et le seul moyen d'échapper à cette malédiction qu'il lui a transmis, c'est de faire l'amour avec quelqu'un d'autre afin de lui refiler cette malédiction. Voilà, donc comme le film en plus est un peu est un peu typé 80s, hein, il me semble pas avoir vu dans ce film les ados utiliser, enfin les post-ados utiliser des portables ou quoi que ce soit. C'est aussi une certaine métaphore sur le sida, l'arrivée du sida, ou alors sur la culpabilité, tout simplement un truc sur la culpabilité sexuelle. Voilà. Alors maintenant, après, sur l'aspect plastique, parce que c'est là que le film est fort en fait. Hein, alors ce qu'il raconte, c'est quand même original. C'est une façon de traiter le thème du fantôme assez original, les acteurs sont vraiment bons, ils sont plutôt bien dirigés, mais c'est surtout l'aspect technique du film qui frappe, avec une réalisation superbe, une photographie superbe, l'utilisation parfaite, pourtant il y a beaucoup de musique, hein, mais d'une musique carpentérienne, et puis il y a cette façon de faire, moi j'aime beaucoup, qui était très utilisée dans les années 80, qu'on revoit maintenant dans pas mal de films, mais c'est de faire de longs panoramiques, voilà, et puis tout à coup, paf, on zoome sur un détail, enfin on fait un travelling pour zoomer sur un détail, et c'est répété plusieurs fois ça dans le film, c'est très très efficace, c'est très beau, le film a une patte artistique plastique très élégante, et d'ailleurs, et je vais terminer là-dessus avant de passer la parole à mon camarade, mais d'ailleurs c'est assez rigolo parce que le réalisateur se permet même des choses parfois dans la narration et tout qui sont un peu alambiquées, un peu étranges. Et il se permet une scène dans une piscine, un final qui n'est pas l'idée la plus glorieuse du film. Et pourtant, malgré tout, il y a une scène qui est très belle. J'en dirai pas beaucoup plus, mais où l'héroïne est sous l'eau, on voit des traces de balles comme ça filer sous l'eau, et ça donne plastiquement une scène magnifique, et je le soupçonne d'avoir introduit cet élément de scénario juste pour pouvoir nous mettre cette scène, puisque c'est vraiment un très beau travail plastique que celui qui nous est donné à voir dans ce film. Vous l'avez compris, pour moi It Follows est vraiment un très bon film. Même si ça ressemble à certaines choses faites récemment, pour moi ça reste un très bon film, et ben, je n'ai pas été déçu, le film est à la hauteur de sa réputation, et voilà, It Follows, très bon film.
Oui, effectivement, c'est un film qui est très beau plastiquement, avec un traitement des couleurs et des éclairages qui particulièrement travaillé. Comme tu l'as dit, la musique est assez omniprésente, une musique qui emprunte beaucoup aux années 80, avec en gros ce sont une douzaine de thèmes réalisé avec un seul synthétiseur, plus ou moins, mais qui sont très efficaces, très prenants, et il y a une espèce de truc, de gimmick qui revient dans le film très régulièrement, au moins 5 ou 6 fois, qui consiste en un long travelling avant, donc caméra montée sur la voiture, avec un des thèmes musicaux, comme ça. Et je trouve que cette répétition, ça souligne vraiment le côté inexorable, en fait, de la malédiction qui les poursuit. Parce qu'elle poursuit au début un des jeunes et puis ensuite un autre. Enfin, voilà, il y a tout cette espèce d'inévitabilité de la malédiction. Après, j'ai trouvé que parfois, justement, la poursuite par la malédiction est un petit peu à géométrie variable. C'est-à-dire que des fois, les fantômes, ils se téléportent relativement vite. Alors que parfois, bah, ils sont là, ils attaquent, et puis il y a une coupe et après, ils ont disparu. On ne sait pas vraiment pourquoi. Mais c'est pas forcément gênant, puisqu'après tout, on ne sait pas s'ils sont réels ou si c'est un effet psychologique. Donc on peut pardonner ce qui peut sembler une incohérence. Voilà, moi j'ai effectivement, comme toi, trouvé que c'était un film qui était plutôt très intéressant, avec un traitement de ce groupe d'adolescents qui n'est pas sans rappeler, comme tu me le disais hors antenne, les films de Gus Van Sant ou encore effectivement de Sofia Coppola que tu mentionnais. Voilà, je trouve que vraiment un bon film et on peut imaginer qu'il peut-être décrochera un prix.
Et puis, aussi pour les amateurs qui prendraient peur en entendant Gus Van Sant, c'est plutôt le Gus Van Sant de Elephant, hein, celui que je préfère, en entendant Gus Van Sant et Sofia Coppola, qui est quand même aussi une cinéaste qui aime filmer la vacuité, parfois ça en devient particulièrement agaçant, il faut quand même aussi savoir que c'est aussi un vrai film de flip, avec des vraies scènes de frousse, vraiment bien gaulées, et qui évite quand même, la plupart du temps en tout cas, de procéder du jumpscare foireux, et qui préfère instaurer une ambiance et créer comme ça quelque chose de malaisant. Et je dirais, pour terminer par là, sans vouloir comparer ce film à ce chef-d'œuvre incroyable de Charles Laughton qui est La Nuit du Chasseur, mais je dirais quand même que regarder ce film, c'est un peu comme regarder le film de Charles Laughton, c'est cette impression de ne pas être dans la réalité, mais d'être dans une sorte de rêve. Dans une sorte de rêve éveillé, de ne pas vraiment être dans un monde réel. J'en veux pour preuve d'ailleurs l'absence totale des parents. On est tout à l'heure, je parlais d'un métamonde. C'est vraiment ça, c'est un monde à part. C'est le monde des post-ados. Ils n'existent qu'entre eux, que pour eux. Et rien d'autre n'existe. Les adultes n'existent pas dans ce film, quoi. Ils sont totalement absents. Et ça en devient fascinant, je trouve. Voilà. Bon, en tout cas, vous l'avez compris. Un film qui m'a beaucoup plu et qui me fait redire à nouveau que la sélection de cette année est quand même d'une toute autre trempe que celle des deux années précédentes. Là, comme dirait l'autre, on tape dans le dur. Is there anybody out there? It's happened. Approximate location of impact, the North Atlantic. As I speak to you right now. It's making its way towards our fair nation. We have 12 hours, people. We're already dead. It's gonna hurt. And I don't want to feel it. I don't want to feel a thing. I hope you're looking after yourselves out there and each other. These are things we gotta hold on to.
Instead of heaven. Are you trying to impress? Running around trying to help this girl?
Just trying to help her, Mum.
You better go. How come you're not with her?
I've messed a lot of things up, Grace.
There's still time.
I just hope you're all keeping safe out there. You're surrounded by your families.
Hold on. Hold on, Grace.
It's coming.
This final hours, ces dernières heures, ces heures finales. Tel est le titre du film de Zach Ilditch. Zach Ilditch qui est un garçon bien sympathique puisque nous l'avons rencontré cet après-midi, puisque nous avions vu avec Léo ce film à l'étrange festival lorsqu'il était passé. Et donc nous avons pu, mais on va vous en parler tout de même, hein, mais nous avons eu la joie de rencontrer ce réalisateur très sympathique, hein, même si j'ai dû batailler un peu avec son accent australien, et lui il a dû batailler un peu avec mon accent français. Mais c'était vraiment intéressant. Il est aussi intéressant que son film, voilà. Et ben, qu'est-ce que ça raconte, This Final Hours? Ben, tout est un peu dans le titre, hein, mais bon, quand même, on va le dire. En gros, ça tourne autour de James. Alors James, c'est un type un peu comme ça, un peu défonce, un peu voilà. J'ai une copine pour la fête, j'ai une autre copine plus sérieuse, et puis et puis qui préfère se déchirer la tronche parce qu'il a appris une nouvelle terrible, c'est-à-dire que, comme le reste de l'humanité l'a appris d'ailleurs, enfin ce qu'il en reste, c'est qu'il y a un phénomène écologique qui fait que la Terre est absolument détruite au fur et à mesure, et ça progresse, et ça progresse, et les derniers à passer à la moulinette, c'est l'Australie. Voilà. Et donc, du coup, si vous voulez, chacun se met à avoir des réactions voilà, qui lui sont propres, hein, qui peuvent être effrayantes. Certains sombrent totalement dans la violence, certains laissent libre cours à leurs pulsions, d'autres décident de se suicider avec la totalité de leur famille, d'autres décident d'attendre paisiblement, d'autres même décident de profiter du moment, de ce coucher de soleil unique qui va ravager l'Australie. Voilà. Et donc, lui, James, c'est un peu un type, un peu un relou, voilà, on va dire ça comme ça. Je me défonce, je couche à droite, à gauche, et je me préoccupe pas de grand monde. Et puis, James, eh ben, il va avoir quelque part l'occasion de se racheter, parce qu'au moment où il décide d'aller à la plus grande party, à la plus grande fête de défonce, de dépravation qui est organisée par son beau-frère et l'une de ses deux copines, donc, insupportable, soit dit en passant, et il décide de se rendre à cette fête. Et puis, chemin faisant, il croise une petite gamine qui s'appelle Rose. Et Rose, elle est perdue, là, comme ça, parce qu'elle est entre les mains de deux pédophiles qui ont décidé d'abuser d'elle. Lui, bien sûr, même s'il hésite un petit instant, il décide d'aller l'aider. Il décide de la sauver. Et puis après, de la ramener dans sa famille. Le problème, c'est que rien ne se passe comme prévu. Et petit à petit, ce chemin de croix, cette rédemption pour lui, hein, va nous donner à voir un film. Attention, il n'y a pas de pathos, hein, par contre, hein, je vous le dis tout de suite. Ce n'est pas parce qu'il y a une gamine, ce n'est pas parce qu'on la sauve, ce n'est pas parce que ça va être la fin du monde et tout et tout. On n'est pas dans le pathos, on est dans un film vraiment, moi j'aime bien, assez sec d'ailleurs, très intéressant dans sa photo, dans sa réalisation, dans son utilisation du plan large. Et cette gamine, il va avec... au prix de moult péripéties, la ramener, même si pour cela, il doit effectivement ne pas... Et s'il se rend compte en fait de qui sont ses vrais amis, qui ne sont pas ses amis, alors même s'il doit un peu gâcher la fête où il est invité, même si rien ne se passe vraiment comme il l'a prévu, il décide de ramener cette gamine. Entre-temps, il faut savoir qu'au début du film, sa copine plus sérieuse... qui est la très belle Jessica de Gouve, je ne sais pas trop comment on dit, voilà. Il l'abandonne pour aller à cette party, voilà. Je parle très bien anglais ce soir. Et on sent qu'il regrette de l'abandonner, voilà. Puis tout ça, ça va jouer. Et puis voilà, bon, quand je vous raconte ça, vous devinez un peu, mais ce n'est pas ça l'intérêt du film. L'intérêt du film est ailleurs, dans ce que ça raconte, la manière dont c'est traité, dans la découverte d'une actrice aussi qui s'appelle Angourie Rice, qui est cette gamine-là, qui est sensationnelle. Alors, Zach Ilditch, quand on l'a rencontrée, nous a dit qu'elle allait prochainement interpréter la fille de Ryan Gosling. Bon, elle est blonde comme les blés, donc ce sera crédible, mais surtout, ça présage quand même d'un destin de star pour cette gamine. Et ma foi, vu ce qu'elle nous montre dans ce film-là, ce n'est pas immérité. Voilà, donc moi je dirais un très bon film, un de plus dans cette sélection, avec des comédiens très très bons. Un film qui prend place non pas après l'apocalypse telle que le veut la tradition australienne et néo-zélandaise du film post-apo. Rappelle quand même que c'est le pays de Mad Max, par exemple. C'est pas rien, puisque c'est le film qui a inventé le genre, hein, quand même. Enfin, Mad Max 2, c'est vraiment le film qui a inventé le post-apo. Ce film, en plus, a de très belles images, des images très marquantes. Le final est très émouvant, plastiquement c'est très beau. C'est marrant parce que en plus c'est filmé presque avec une lumière très crue. On a l'impression que parfois c'est de la vidéo, mais c'est très travaillé en fin de compte. C'est vraiment très beau. Et puis l'histoire majeure du film, ça raconte effectivement une rédemption, et surtout ça nous démontre que toute une vie peut filer le temps de 12 heures, quoi. Voilà, puisque là ce qu'on vit, c'est les 12 dernières heures de ces quelques personnages. Voilà, à travers les yeux plus particuliers du personnage principal et de cette petite fille. Voilà. Alors, un très bon film, et je dirais que ceux qui ont aimé Appel d'urgence de Steve DeJarnatt devraient passer un très bon moment devant ce film.
Alors moi j'aime beaucoup les films de fin du monde en général, qui sont effectivement pas Légion, puisque la plupart du temps ils se passent après la fin du monde. Voilà, dernièrement il y a eu quelques titres particulièrement réussis dans ce genre, notamment le Mélancolia de Lars von Trier, mais ici on n'est pas du tout dans... Enfin, on est avant la fin du monde, on n'est pas tout à fait dans la même ambition, mais ceci dit, ça reste un film particulièrement bien fait, avec une réalisation, moi, que je trouve plutôt... Enfin, je n'ai pas remarqué particulièrement de virtuosité, mais disons, c'est bien réalisé. Il n'y a pas de, de grands éclats ou de grands mouvements de caméra. Quoique la scène de la fête au milieu est assez complexe. Mais... Ouais, le truc particulièrement intéressant, je trouve, dans ce film, c'est effectivement la trajectoire des deux personnages. Donc, le personnage de James, qui est un peu un espèce de... Finalement, ce n'est pas vraiment un adulte, c'est plutôt un... C'est un adolescent, quoi. Et puis, cet autre personnage, Rose, qui, elle, pour le coup, passe à l'âge adulte en l'espace des 12 heures de la fin du monde, puisqu'elle est confrontée tout d'un coup à une espèce de brutalité du monde. Après, le film est assez réaliste, je trouve, dans la façon dont il nous montre les diverses réactions que peuvent avoir les gens à cette fin du monde annoncée. Alors bon, de l'aveu du réalisateur, c'était un petit peu son travail. Et je trouve que finalement, ça fonctionne plutôt bien et ça nous permet de bien rentrer dans cette... on s'y croirait presque dans cette fin du monde.
D'autant plus que, comme tu le disais, il y a quelques scènes effectivement réalisées avec plus d'ampleur. Je pense au final, je pense au milieu. Enfin, les moments forts du film, il les maîtrise bien. Mais effectivement, de par le grain... Enfin, c'est pas un grain vidéo, c'est difficile à dire, parce que la photo est très belle, mais de par là, ça donne parfois un aspect presque cinéma-vérité, presque documentaire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On a l'impression d'être dedans, vraiment, par moments.
Oui, carrément. Puis il y a ce côté avec la lumière un peu brûlée, comme ça, qui... Bon, après, c'est l'Australie, donc fatalement, c'est déjà bien, bien exposé en temps normal. Mais on a le sentiment que le monde va vers sa fin. Un élément qui est un petit détail dans le film, mais que j'ai trouvé intéressant, c'est la radio. C'est qu'ils voyagent beaucoup en voiture, donc, hein, dans ce film, parce que l'Australie, c'est aussi les grands espaces. Et régulièrement, quand il monte dans sa voiture, James, il allume l'autoradio et on entend un présentateur sur une station en modulation d'amplitude, donc avec une très grande portée. Donc on ne sait pas vraiment où est ce présentateur. Mais en tout cas, il fait une espèce de décompte des heures restantes avant la fin du monde. Et je trouve que cette espèce aussi de contrôle de réalité, finalement, qu'il effectue en rallumant sa radio pour vérifier qu'il n'est pas, peut-être pas... tout simplement en train d'halluciner dans un coin du désert. Je trouve que ça renforce le réalisme du film. Pour finir, on peut souligner le travail d'Angourie Rice, parce que le personnage de Rose est absolument captivant. Son interprétation est juste excellente.
Et puis moi, je voudrais rajouter, puisque tu as parlé de la radio, c'est vrai, il y a un élément dans le film, moi, qui me plaît bien. C'est, parce que j'en parle depuis le début de la semaine, c'est l'utilisation de la musique dans ce film. Voilà, qui est vraiment très bien utilisé, bon, parce qu'il y a la musique diégétique, hein, ils sont dans la fête, il y a de la musique à fond, voilà, bon, ça c'est normal, mais la musique vraiment telle qu'elle est utilisée, elle est utilisée de manière très puissante au moment uniquement de deux scènes capitales, puisqu'il y a la scène d'une fuite et la scène d'un retour. Et ces deux scènes, vraiment... sont du coup très poignantes, très touchantes, parce qu'on n'utilise pas la musique à tout bout de champ. Et d'ailleurs, on en discutait avec lui, là c'est pareil quand on l'a rencontré, il nous avouait que lui aussi, il y a le fait qu'il y ait de la musique tout le temps dans les films aujourd'hui, c'est quelque chose qui le fatigue. Et on est d'accord avec lui, hein, d'ailleurs, hein, sinon on ne dirait pas ça. Et je trouve qu'il y a cette utilisation de la musique qui est très juste et très bien dans ce film. Une qualité de plus à rajouter à ce film. Voilà, alors hier... Après vous avoir parlé de The Voices, je vous disais que moi-même, personnellement, je donnerais bien un prix à The Voices, voire c'est un peu mon grand prix à moi, mon coup de cœur. Après, il faut avouer aussi que la sélection de cette année est tellement bonne qu'aussi bien This Final Hours que It Follows... que même Ex Machina, qu'on oublie un peu, parce que c'était le premier film. Enfin, tous ces films-là pourraient prétendre à des prix. Hein. Ils sont tous intéressants, ils ont tous des qualités, ils ont tous quelque chose en plus. Et puis, bien sûr, Goodnight Mommy aussi, hein, qui, à mon avis, devrait d'ailleurs peut-être, connaissant l'amour d'un certain Philippe Rouillet pour le cinéma autrichien. Y a peut-être des chances que Goodnight Mommy gagne quelque chose au niveau du prix de la critique, voilà, mais je trouve vraiment que c'est une année très riche et je tenais à le souligner. Alors demain, ce sera le dernier jour. Le jour des adieux aux Vosges. On viendra l'année prochaine, évidemment. Et puis, demain, il n'y a plus qu'un seul film en compétition. Demain, c'est Honeymoon, donc Lune de Miel, un film de Liv Janiak, qui est une jeune femme. Hein, c'est son premier film. Elle a été assistante sur pas mal de trucs, dont le Blanche-Neige avec Julia Roberts, tout ça. Et puis, c'est un film qui s'annonce, ma foi, très intéressant et qui met en vedette donc Rose Leslie, que nous aimons tous, et Harry Fredaway, que personnellement, j'aime bien aussi dans Penny Dreadful. Et puis, demain, alors, on fera un peu aussi le topo sur le hors-compète, parce que depuis le début de la semaine, on vous dit il y a du hors-compète, il y a des trucs. Bon, il y a des trucs bien pourris aussi, mais il y a des trucs bien sympas. Et donc, on vous parlera de tout ça. Et puis surtout, demain, parce que c'était aujourd'hui normalement, mais comme on a été interviewé Zaki Ilditch, on n'a pas pu y aller. Mais, pas de souci. Demain, on se rend à la deuxième diffusion de la compétition de court-métrage. Et oui, car comme tous les ans, il y a une compétition de court-métrage à Gérardmer. Et cette compétition de court-métrage, cette année, elle propose, hein, dans un jury présidé par Bruno Volkovitch, hein, on pourra voir un film qui s'appelle L'Art du Geste. Voilà, un truc qui a l'air sympa comme tout, avec de la torture dans une chapelle. Un autre film qui s'appelle Habana, qui se passe à la Havane dans un futur proche. Un film qui s'appelle Puzzle, hein, voilà, avec un veuf qui se plonge dans les puzzles jusqu'à tomber dans une sorte de truc étrange, voilà, et avec Rien ne peut t'arrêter sur le fait d'accepter le deuil de l'être aimé. Je ne sais pas à quoi ça peut ressembler tout cela, et n'oublions pas également Shadow sur l'histoire d'un garçon qui exerce le métier de montreur d'ombre itinérant. Voilà. Alors, cette compétition de court-métrage, voilà, nous vous la relaterons dès demain. Et puis demain, ce sera également le jour du palmarès. Donc demain, un jour important dans cette 22e édition du Festival international du film fantastique de Gérardmer. C'était Culture Prohibée attaque Gérardmer saison 5, épisode 4. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale, pour la critique cinéma et pour l'aspect technique de la chose. Mais à part Léo Manien, dit Léo The Last. Salut les gens, à demain. Thank you.
10.